VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Abidjan, 14h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. Union africaine, la commission de l'Union africaine a exprimé sa perplexité face à l'inclusion qu'elle qualifie d'injuste du Tchad à la liste des pays visés par le décret migratoire du président américain Donald Trump. Une mesure interdisant aux ressortissants tchadiens l'accès au territoire américain. L'organe exécutif de l'Union africaine dit partager les mêmes préoccupations que les États-Unis concernant la menace terroriste, mais d'avis que la coopération et un engagement significatif sont vitaux à l'élaboration d'une réponse commune à ce grave défi mondial. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Commission de l'Union africaine daté de mardi et envoyé aujourd'hui à la presse. La France aussi a également fait part ce mercredi de sa surprise face au décret américain. Paris exprime l'espoir qu'une solution serait rapidement trouvée entre les États-Unis et le Tchad, des pays alliés partenaires, pour lever l'interdiction américaine. Le Tchad accueille le quartier général de l'opération militaire française Barkhane qui lutte contre les djihadistes au Sahel et la France considère le pays comme le pivot de la force anti-djihadiste G5 Sahel que Paris veut mettre sur pied avec le Niger, le Burkina, le Mali et la Mauritanie. Au Tchad même, le décret migratoire du président Trump était à l'ordre du jour d'une rencontre d'urgence mardi à N'Djamena entre les autorités tchadiennes et l'ambassadeur des États-Unis, Madame Guita Passy. Timothée Donangmaya a joint à N'Djamena Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre secrétaire général du gouvernement, assurant l'intérim des affaires étrangères.
Madame l'ambassadrice a essayé de nous expliquer les manquements qui aurait conduit Washington à placer le Tchad sur cette liste. Et ces manquements ont un lien avec soit une insuffisance dans les informations qui ont été communiquées à la demande des services de sécurité américains, soit de retard dans la communication d'un certain nombre d'informations. En somme, c'est une addition de petites choses qui, mis bout à bout, ont justifié cette décision pour les Américains. Pour les Tchadiens, on reste toujours dans l'incompréhension. Il faut comprendre une chose. Par année, il y a peut-être 1 million de Tchadiens qui font des demandes de visa. Donc, qu'il y ait une décision souveraine américaine pour imposer une restriction, c'est une chose. Mais ce qui a choqué, ce sont les motifs qui ont été invoqués pour un pays reconnu par ailleurs pour son engagement, pour ses efforts dans la lutte contre le terrorisme. D'abord, c'est l'image de notre pays qui a été atteinte. Ce sont des motifs vraiment infamants qui ont été mis en avant pour justifier cette décision. Et c'est d'abord en cela que les Tchadiens ont été choqués. De surcroît, lorsque cette décision vient d'un pays qui a été toujours considéré comme un partenaire historique de notre pays.
De votre point de vue, vous êtes bien acquitté de votre part de collaboration dans la lutte contre le terrorisme.
Absolument. Je pense que nous sommes un exemple, pas seulement ici en Afrique, à travers le monde. Notre intransigeance politique contre le terrorisme est quelque chose qui est reconnu par tout le monde, y compris par le président Trump. On aurait pu, je pense, éviter cette décision si le gouvernement tchadien avait été saisi d'un certain nombre d'informations à compléter ou bien à fournir. Mais là, malheureusement, le mal, il est fait. Nous mettre sur la même liste que voilà un certain nombre de pays pour ce que nous faisons. D'ailleurs, même avec les États-Unis, avec les grandes puissances, avec nos voisins, c'est ça qui a choqué les tchadiens.
Qu'allez-vous faire à présent?
Nous avons convenu avec Madame l'ambassadrice d'essayer de conjuguer nos efforts pour lever les réserves qui ont conduit à la prise de cette décision-là. Nous avons sincèrement regretté à la fois la manière et le contenu de cette décision, mais ça ne nous empêchera pas de continuer la collaboration afin de répartir cette nouvelle base.
Abdoulaye Sabre Fadoul, ministre secrétaire général du gouvernement tchadien. La lutte contre le groupe djihadiste nigérien Boko Haram au Cameroun, dans un rapport rendu public ce mercredi, Human Rights Watch, organisation de défense des droits humains basée à New York, accuse le Cameroun d'avoir expulsé de force près de 100 000 réfugiés nigériens fuyant les violences de Boko Haram, des réfugiés qui ont été victimes en outre d'actes de torture et d'agressions sexuelles de la part de l'armée camerounaise. Pratiquement 100 000 Nigérians ont été renvoyés de force dans leur pays depuis janvier 2015, affirme l'ONG de défense des droits humains. Des retours forcés qui violent le principe de non-refoulement, interdisant le renvoi de réfugiés et de demandeurs d'asile vers des lieux où ils peuvent être persécutés, précise Human Rights Watch.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
RDC, une coalition d'ONG dans les groupes de défense des droits humains Human Rights Watch et Amnesty International a appelé mardi à la libération de 9 militants arrêtés dans le pays. Ces militants avaient manifesté contre le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila après l'expiration de son mandat. John Lyndon.
Les autorités congolaises doivent libérer immédiatement et sans condition 9 militants pro-démocratie ou défenseurs des droits humains congolais détenus injustement pour avoir participé à des activités pacifiques, écrivent les signataires dans un communiqué regroupant 45 organisations de défense des droits de l'homme. En juillet dernier, 9 militants ont été arrêtés à Mbujimayi dans le Kasaï oriental et à Lubumbashi dans le Katanga. Ces militants sont accusés, selon les autorités, de s'être joints à des manifestations pacifiques appelant à la tenue des élections et au respect de la Constitution congolaise. La coalition d'ONG dit avoir enregistré toujours en juillet l'arrestation d'au moins 128 personnes dans 9 villes, dont une dizaine sont poursuivies pour des charges motivées politiquement, d'après ces organisations.
Afrique de l'Ouest, au Burkina Faso, deux gendarmes burkinabés ont été tués dans l'attaque mardi soir d'un convoi de ravitaillement de carburant d'une mine d'or à Inata, dans le nord du pays, frontalier du Mali. Le convoi escorté par des éléments de la gendarmerie a été intercepté dans la province du Soum sur l'axe Tongomael-Inata après que le véhicule de tête a sauté sur une mine. Frontalier du Mali et du Niger, le nord du Burkina est le théâtre d'attaques djihadistes régulières depuis 2015 et c'est la troisième attaque d'un convoi à l'engin explosif improvisé depuis la mi-août. En Côte d'Ivoire, incursion d'hommes armés dans un commissariat de police du quartier populaire d'Abobo dans le nord d'Abidjan, où les assaillants se sont emparés d'armes. On ne signale pas de blessés, mais ces derniers mois, plusieurs attaques similaires ont été enregistrées dans le sud du pays. Les détails avec notre correspondante à Abidjan, Narita Namasté.
La série d'attaques de commissariat et gendarmerie se poursuit en Côte d'Ivoire. Des hommes armés ont attaqué ce mardi après-midi le commissariat du 34e arrondissement, situé dans la commune d'Abobo, plus précisément au quartier Abobo-Baoulé. Des pistolets automatiques, deux kalachnikovs et une radio de transmission de la police ont été emportés. Une opération qui aurait duré moins d'une trentaine de minutes, sans faire de blessés. Depuis le début de l'année, des attaques armées contre des postes de police et de la gendarmerie à Abidjan et dans les villes de l'intérieur se sont multipliées. Des autorités ivoiriennes ont accusé des partisans de l'ex-chef de l'État Laurent Gbagbo en exil au Ghana d'être à l'origine de ces attaques. Le président ivoirien Alassane Ouattara avait annoncé des mandats d'arrêt contre ces derniers, estimant avoir des preuves concrètes. Narita Namasté à Abidjan, VOA Afrique.
En Ouganda, des députés ougandais en sont venus au même mardi au Parlement, motif un amendement constitutionnel voulu par le parti au pouvoir pour supprimer la limite d'âge pour les candidats à la présidence du pays. Yakuba Ouedraogo.
Les tensions se sont transformées en violence lorsque le chef du groupe parlementaire de l'opposition a accusé un ministre de l'avoir menacé avec un pistolet au Parlement. Il s'en est suivi une empoignade, des coups de poing, des injures de toutes sortes et des dossiers ont volé en éclats. Sur le campus de l'université Makerere, des étudiants ont bravé l'interdiction de manifester et ont porté des bandeaux rouges en signe de protestation. Certains avaient même érigé des barricades, mais les forces de l'ordre les ont dispersées avec des tirs de gaz lacrymogène. Selon le porte-parole de la police, Emiliane Kayima, 18 personnes, dont le chef de l'opposition, Kizza Bisseguié, ont été arrêtées. La constitution actuelle impose aux candidats à la présidentielle d'être âgés de 35 à 75 ans. Une modification permettrait à Yoweri Museveni, 73 ans, de se représenter pour un sixième mandat en 2021. À cause de cette bagarre au sein de l'hémicycle, cet amendement constitutionnel n'a pas été discuté.
Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voaafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.